Bienvenue. Vous entrez dans la zone. Ta zone de confort, à ta zone de génie.
Quand tu laisses place à ta créativité, il y a mille manières d'être créatif.
J'écris, je lis.
Une porte ouverte
sur un monde enchanté.
Tu lis quoi, toi ?
Ce livre m'a transportée.
Tu lis quoi, toi ?
Quand elle écrit, c'est beau, quoi.
J'ai des piles à lire partout.
Des petits tas dans ma chambre,
des petits tas dans
ma bibliothèque, c'est...
Lire, c'est vivre en pleine lumière.
Tu lis quoi, toi ?
Je contemple, j'écris, je lis.
Et tu vois, quand tu oublies que t'es en train de lire des mots, ben voilà, c'est ça que je cherche quand j'ouvre un livre, finalement.
Vous écoutez la deuxième partie du meilleur et du pire de nos bibliothèques, un épisode du Book Club de la Zone, enregistré avec ma sœur, Eva.
Je sais plus si c'est à toi ou à moi, piocher.
C'est à toi. Okay.
Ah, une lecture sous-cotée.
Elle m'a saoulée avec ça, alors... Une lecture sous-cotée. Écoutez, je vais vous sortir des classiques, parce que en général, les classiques sont sous-cotés.
Non, mais c'est vrai, t'as raison.
Vous en entendez parler en quatrième, et vous êtes là, oh, mais il faut les lire. Belle Amie de Maupassant, évidemment.
Évidemment, bah Maupassant, ça, bah, c'est notre gars sûr.
Maupassant, en général, ça passe. C'est des mots qui passent. Et ça raconte l'histoire d'un arriviste, Georges Duroy, dans la société de la Troisième République, donc au XIXe siècle. Et il essaye de monter en classe en se servant des femmes. En se servant des femmes de, pas ses amis, mais ses collègues, parce qu'il est embauché dans un journal grâce à un de ses amis d'école. Et il trahit tout le monde juste pour monter. Et on suit ses aventures, on suit un peu son caractère égoïste et mesquin. Et on se prend quand même à bien rire et à bien être diverti par ce Georges Duroy, mine de rien, qui a des pensées complètement, complètement terribles.
Et en fait, il manipule des femmes plus riches pour arriver au sommet, quoi.
Exactement.
Est-ce qu'il arrive à ses fins, à la fin ?
Bah écoute, faut le lire.
Ouais, on veut savoir.
Voilà. Bah, non, mais
je l'ai lu en plus, c'est juste que je m'en souviens plus. Bon, faut le lire. Et pourquoi c'est sous-coté ?
Parce que c'est un classique. Mm. En vrai, parce que c'est un classique. Et j'en ai un autre qui est encore plus sous-coté, c'est Madame Bovary.
Oh non, celui-là,
Madame Bovary, personne l'aime. Tout le monde veut le boycott. Quand on entend Madame Bovary, on entend ennui. Mais je l'ai lu. Pour voir pourquoi il était sous-coté, pourquoi il était détesté. Et en vérité, il est trop bien. Je ne m'attendais pas à l'aimer, mais il est génial. Il parle de cette femme qui a épousé Charles Bovary et qui s'ennuie à un point inimaginable.
Mais c'est pour ça qu'on s'ennuie aussi.
Mais non, en fait.
Et Flaubert, il décrit pendant des pages et des pages son ennui. Enfin, à un moment donné, il passe à autre chose. Là.
Mais non, mais parce qu'elle fait des choses pour combler cet ennui et cette espèce de vie qu'elle mène. En fait, on se prend à être intéressé. On veut savoir ce qu'elle fait pour arrêter de s'ennuyer. On veut savoir ses relations avec Charles Bovary, avec les autres hommes, avec le fait qu'elle soit bourgeoise. À quel point elle est bourgeoise ? Est-ce qu'il y a des gens plus bourgeois qu'elle ? Des gens plus riches qu'elle ? La jalousie qui la prend ? Et ce qu'elle va faire à la fin ?
Waouh ! T'as fait une mini-dissertation ?
J'adore ce livre !
Tu veux vraiment qu'on lise, là ?
Ouais ! Franchement, lisez Madame Bovary !
Franchement, tu m'as un peu donné envie de lire.
Ah, tu vois ?
Ouais.
Ah. Flaubert. Et il faut savoir que Flaubert a été le maître de Maupassant.
Ah,
et oui.
D'accord.
Et je l'ai appris dans Secret d'Histoire.
Encore une fois, donc. Il y a eu un Secret d'Histoire sur Maupassant ?
Sur Flaubert.
Ah, sur Flaubert. Ah, je me rappelle plus si je l'ai vu celui-là.
Le bon vieux Gustave.
Ouais. Ok. Alors, une lecture sous-cotée. Alors, en vrai, c'est pas une lecture sous-cotée.
Super.
J'ai un peu triché parce que je trouvais pas et que honnêtement, de tous les classiques que j'ai lus, je préfère les classiques plus contemporains aux classiques de Victor Hugo, tout ça.
Ouais,
là.
Okay.
Donc du coup, j'ai pas vraiment de classiques qui sont sous-cotés à recommander. Mais une lecture sous-cotée dans le sens où à chaque fois que j'en parle, les gens me regardent en mode sérieuse là.
Ok.
Et j'en ai déjà souvent parlé, donc peut-être que vous savez déjà qui je vais dire, mais Bernard Werber, la trilogie des fourmis.
Ah, oh, je croyais que tu l'aimais bien.
Mais oui, je l'aime bien, je l'adore.
Ah oui, il est sous-côté.
Oui, il est sous-côté.
D'accord.
Et bah, t'as oublié la question, quoi.
Je pensais qu'on parlait des surcotés, mais oui,
mais
bien
non,
sûr.
Mais non, mais tu viens juste de parler de Gustave Flaubert que t'aimes. On est fatigué là, ça fait 52 minutes qu'on parle, on n'a jamais parlé aussi longtemps sans faire de pause.
Ah ouais, ah ouais. Franchement, je suis au bout.
Alors, les fourmis, et en fait, à chaque fois que je parle de ce livre, tout le monde me regarde trop bizarrement en disant « Non mais t'es sérieuse
?» Et j'en fais partie.
Ouais, des fourmis qui parlent. Mais en plus, elles parlent pas, ok. Elles communiquent avec leurs antennes et avec leurs phéromones.
Super, ça donne envie. On se demande pourquoi il est sous-coté.
Ok, ah déjà, ce livre est un best-seller. Okay. Mais à chaque fois que j'en parle à mon entourage, les gens se disent « Bon, ok, je vais passer. » Mais pourtant, vous allez voir que ce livre-là, si vous lui donnez une chance, peut-être que ce ne sera pas votre truc. Mais peut-être que vous passez à côté d'une révélation en termes d'imaginaire et de créativité. Je veux dire, Bernard Werber a écrit 3 tomes, dont le premier tome, il a pris 12 ans avant de l'écrire, parce qu'il était journaliste scientifique. À un moment donné, il a fait un voyage, je ne sais plus dans quel pays, dans le sud du continent africain. C'était pas l'Afrique du Sud. Où il a étudié les fourmis pour un journal. Et en fait, ça lui a donné l'idée des fourmis. Et cette trilogie est incroyable parce qu'en fait, on va suivre des fourmis et en parallèle, on va suivre la vie d'une famille qui est dans une maison et dont le fils doit résoudre des énigmes, etc. Et à un moment donné, le fils se retrouve enfermé au sous-sol. Et à 600 mètres sous terre, quoi, près du sous-sol, se trouve une colonie de fourmis. Qui doit, en fait, qui vit sa vie de fourmi, quoi. Enfin, il y a des batailles, enfin, on suit, il y a une scène de bataille entre différentes fourmis.
C'est lunaire.
Ouais, à un moment donné, il y a en fait une fourmi qui est contaminée. Et donc, en fait, elle va commencer à contaminer les autres fourmis, ce qui fait qu'elles sont empêchées de faire leur travail. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une fourmi vit pour le groupe. C'est pas un insecte qui est individualiste. C'est vraiment un insecte qui est collectif. Donc chacune des fourmis a sa tâche, a son travail. Il y a les soldats, il y a celles qui vont récolter la bouffe, il y a celles qui gardent les larves, etc. Enfin bref, voilà quoi. Il y a les princesses aussi qui...
Il y a des princesses.
Ouais, elles ont des ailes et puis elles s'envolent.
Ah ouais.
Et elles vont faire une autre colonie. Et en fait, t'en apprends scientifiquement sur les fourmis. C'est genre c'est un bête de documentaire animalier.
Ok.
Et en même temps, il y a une histoire en parallèle entre les fourmis et cette famille dont le fils est enfermé au sous-sol. Et peu à peu, tous les membres de la famille vont descendre au sous-sol, ils vont disparaître. Donc l'inspecteur de la ville va descendre au sous-sol. Et somehow, ça devient toute une histoire un peu farfelue avec une sous-histoire, enfin tu vois...
Un subplot.
Un message en fait plutôt... Sur à quel point il faut protéger l'environnement et que ça commence par les êtres petits qu'on méprise le plus ou qu'on déteste ou qu'on détruit.
Qu'on tue.
Ouais, voilà, ou qu'on tue comme ça, impunément.
Oh, je tuerai plus jamais une fourmi.
Merci. Et en fait, ce livre est incroyable et en fait, je me suis surprise à être émotionnellement impliquée pour des personnages qui sont des fourmis,
c'est clair que... Waouh.
Et ce livre est juste incroyable, et je sais que je ne l'ai pas bien résumé, mais c'est parce qu'en fait, l'histoire est tellement dingue, et tellement farfelue, et part tellement dans tous les sens, tout en ayant une cohérence incroyable, que voilà. Et Bernard Werber, je l'ai découvert dans un podcast où en fait, il racontait sa vie et comment il est devenu écrivain, parce qu'il faut savoir qu'il écrit à peu près un livre par an, et qu'il écrit tous les jours 4 heures par jour.
Wow.
Et c'est vraiment un exemple en fait de discipline, et c'est comme ça qu'il a vraiment développé son imaginaire et sa créativité. C'est vraiment un auteur incroyable que j'admire beaucoup, et d'ailleurs, Mea Culpa, Aujourd'hui, je vais parler directement à une de mes plus proches amies, Floriane. En 2008, elle avait lu Les Fourmis. Elle m'avait dit de lire ce livre et je l'avais regardé en mode, non, mais t'es sérieuse, meuf.
Et voilà,
un livre sur les fourmis.
Tu as fait partie de ces gens-là.
Voilà, donc la boucle est bouclée.
Un livre de ton enfance-adolescence. Ah ouais, j'aime bien cette question. Moi, ça s'appelle Le Monde de Charlie de Stephen Chomsky, que Manu m'a offert le jour de mes 16 ans. Donc c'est parfait, c'était un parfait cadeau.
Quoi ?
Ouais.
Je t'ai offert ça, moi ?
Ouais, on était à Lomé.
Ah ouais ?
2014, ouais.
Alors là, j'en ai aucun souvenir.
Eh bah, génial.
Alors vas-y, replonge-moi dans ces souvenirs.
Alors, Le Monde de Charlie, ça parle d'un adolescent un peu, enfin très anxieux, qui fait sa rentrée dans un nouveau lycée, qui est freshman, donc en seconde, quoi. Et il essaye d'avoir des amis. En fait, c'est sa quête d'avoir des amis, mais il est tellement anxieux qu'il n'arrive pas à en avoir. Mais il va quand même rencontrer des gens, il va quand même avoir des relations avec des gens plus ou moins bonnes, ces relations. Et bon, il va tomber sur deux personnes absolument géniales, avec qui il va très bien s'entendre.
Emma Watson. Ça, c'est le livre. Ah, c'est le film.
Il y a eu une super adaptation. D'ailleurs, cette adaptation était géniale parce que le réalisateur, c'était l'auteur du livre.
Okay.
Et oui. Et voilà. Et le livre, c'est un parcours, en fait, qui a des embûches. Et on ne s'attend pas du tout à la fin. Et c'est un livre parfait pour l'adolescence. C'est vraiment... C'est exactement les questions qu'on se pose dans l'adolescence, c'est exactement les problèmes qu'on a pendant l'adolescence. Enfin.
Mais surtout quand on a une personnalité introvertie, parce que Charlie, il est introverti.
Oui, très, très introverti, ouais.
Mais aussi quand on se pose des questions sur quelle est notre place dans le monde.
Mm-mm.
Surtout à l'adolescence, au lycée, quand, tu vois, et c'est encore plus visible d'ailleurs dans les lycées américains, tu sais, dans les séries américaines où il y a vraiment des clichés, quoi. Genre, le groupe des pop-up girls, le groupe, même le groupe des nerds,
ouais,
le groupe
ouais.
de théâtre, le groupe de Glee, ceux qui font, ceux qui font des chansons, là.
Mon groupe.
Ton groupe, ouais. En tout cas, bref. Et ouais, je pense que c'est un livre sur comment, ou un film, hein, vous pouvez voir le film aussi, hein, sur comment casser ces cases-là et se trouver soi, en fait.
Et d'ailleurs, Charlie, il se trouve dans la littérature, donc...
La boucle est bouclée.
La boucle est bouclée.
Moi, il y a une autrice que je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'étais ado. Eva, elle hoche la tête.
J'ai déjà
elle sait déjà. C'est Meg Cabot. C'est une autrice young adult, ouais, vraiment jeunesse, young adult. Elle a écrit plein de bouquins, dont Le journal d'une princesse, là.
Le fameux.
Et j'ai lu aucun, j'en ai lu juste un. Le journal d'une princesse, j'ai jamais accroché. Par contre, ses autres livres qu'elle a écrits, j'ai beaucoup aimé. Et l'un qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué, c'est Avalon High. Et en fait, Avalon High, c'est l'histoire du prince Arthur, mais en 2010, dans un lycée américain.
Ouais.
Donc, c'est vraiment exactement... Genre, c'est vraiment une réécriture de la légende d'Excalibur, mais reportée vraiment dans un lycée américain, quoi. Et en fait, c'est trop bien parce que ça mêle le passé et le présent, et tu te rends compte que tous les contes et les légendes qu'on lit ou qu'on voit et qui datent d'il y a 4 siècles, voire plus, peuvent être encore... toutes les leçons qu'on en tire et les émotions qu'on en ressent sont toujours, en fait, actuelles et transposables à nos problématiques aujourd'hui, tu vois. Même quand on est ado et qu'on est dans un lycée et qu'on pense qu'il n'y a rien qui se passe et que notre quotidien est un peu plat, quoi, ben, finalement, il peut se passer de grandes, grandes aventures quand on regarde bien. Et moi, ça m'avait fait trop voyager. Enfin, après, J'avais trop envie de vivre à Valenheim dans mon lycée, ouais, là.
Bah ça, c'est...
Mais ça se passait pas comme ça.
Oui, ouais, c'est... On est toujours un peu déçus quand on lit.
Et quand on finit un livre. Ouais. Donc, à Valenheim, Mec Cabot en général, j'avais trop, trop aimé. Il y en aurait plein d'autres, franchement, des livres de mon adolescence, de mon enfance. Je pense à Le Passeur, sur tu sais, une communauté, en fait, un monde où on ne voit plus les couleurs. Mais soudain, il y a un gamin qui voit, qui se rend compte, qui voit un petit peu en couleur, puis il va être mentoré par un passeur, et peut-être pour retrouver un monde d'avant. Et ce livre aussi, il était incroyable. J'en ai parlé il y a quelques jours avec des copines là, et on se rappelait de cette lecture, et ouais, elle est dingue, il faut la lire aussi. Je sais que je l'ai un peu mal résumé.
Il y a la trilogie des Hunger Games aussi, incroyable, qui m'ont fait voyager. Je les ai lus, c'est des livres que j'ai lus en 2 jours. Tu peux pas arrêter. Et ouais, c'est clairement l'adolescence, quoi. Ça fait bizarre de se replonger dedans, d'ailleurs. Ouais, ça me rend un peu nostalgique.
Est-ce qu'il y a un livre que t'as lu quand t'étais ado, là, que t'as envie de relire, là?
Un livre que j'ai lu quand j'étais ado, que j'ai envie de relire. Je suis pratiquement sûre que je l'ai fait, mais j'arrive pas à m'en souvenir.
Moi, il y en a deux que j'ai fait récemment. Il y a 4 filles et un jean.
Ouais, ouais, ouais.
Et super connu, hein, l'histoire de 4 filles qui sont nées le même jour et qui sont super amies. Et en fait, on suit un peu leurs aventures chaque été. Et l'autre, c'est La Princesa et le Capitaine. De Anne-Laure Bondou, qui est aussi une autrice jeunesse. Alors lui, c'est vraiment très jeunesse-jeunesse, hein. Mais c'est un parcours initiatique, puis j'en ai déjà parlé dans un autre book club, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je les ai relus l'année dernière, ces deux-là. Et c'était trop bien, c'était des lectures un peu bonbons pour se replonger, en fait, dans l'enfance, puis c'était trop bien.
Alors, un livre que j'ai lu adolescente, que j'ai relu,
ouais,
clairement Les Nombrils. Les Nombrils.
La BD Les Nombrils, la classique.
Et je pourrais le relire. Enfin, c'est vraiment une BD doudou
ouais,
qui me fera toujours rire, ouais, qui me fera toujours du bien. Ouais, franchement, Les Nombrils, je ne sais pas si vous avez lu, si vous n'avez pas lu, il faut foncer. C'est
trop marrant.
Trop, trop marrant.
Malheureusement, le duo d'auteurs s'est séparé dans la vraie vie, donc on aura... Et ils nous ont laissé sur un gros suspense dans le dernier tome de la BD, et on ne saura jamais la fin.
Oh, c'est... Je suis tellement, tellement triste, quoi.
C'est clair. Allez, on pioche. C'est l'avant-dernière question. Le livre qui est dans ta pile à lire ou dans ta wish list depuis des années.
Alors, waouh, ça fait longtemps que je devrais lire cette série de manga. C'est Banana Fish.
Ah oui.
Ouais, de Hakimi Yoshida. Ouais, c'est un manga, c'est une espèce d'enquête à New York City en 1985. On se plonge dans un gang qui a une quête un peu à suivre avec un nom de code qui est Banana Fish. Et ça a l'air super intéressant. Je voulais vraiment le lire, mais à chaque fois, je lis autre chose.
Ah, donc ça, c'est dans ta pile à lire, quoi. Carrément, tu les as achetés, mais tu lis toujours autre chose.
En regardant à chaque fois que je commence à lire un livre avec culpabilité, Banana Fish qui trône dans ma bibliothèque et que je commence jamais, voilà, navré.
Purée, moi, il y en a tellement.
je sais. À chaque fois que je viens chez elle, je vois sa pile à lire.
Elle se rallonge à chaque fois. Il faut que j'arrête d'acheter des livres. En fait, c'est ça, c'est que pendant 2 ans, ou du moins pendant tant que t'as pas fini ta pile à lire, t'arrêtes d'acheter des livres, en fait.
Elle en achète et elle en demande. Donc on lui offre et elle les lit pas.
Bah oui, bah du coup, bah ok, bah tiens, parlons-en. Notre mère m'a donc offert un livre il y a 2 ans maintenant. Enfin, ouais, je pense qu'il y a 2 ans. Et je ne l'ai toujours pas ouvert. Dans ma bibliothèque et je l'ai demandé. Enfin, je veux le lire, mais pour l'instant, bah, je sais pas, c'est pas le moment. Il est là dans ma pile à lire. Alors, le livre, c'est « Mets leurs yeux dardés sur Dieu » de Zora Neale Hurston. Bref. Encore un classique de la littérature américaine. Vous avez compris maintenant que j'aime les classiques
bah ouais.
de la littérature américaine. Et en fait, je connaissais absolument rien sur ce livre. La seule raison pour laquelle je le voulais, c'est parce que c'était un classique, c'était écrit par une femme noire, et Toni Morrison le recommandait.
Ah,
voilà.
Bon, c'est quand même des arguments assez forts pour vouloir lire un livre.
Et donc, honnêtement, je ne me rappelle même plus de... je ne me rappelle même plus du résumé. Et je sais juste que Zora Neale Hurston, c'était donc une écrivaine, une ethnologue, c'était aussi une réalisatrice. Et donc, pour résumer un petit peu le livre, je vais aller sur Babelio rapidement. Ok, alors ça se passe dans une petite ville de Floride, et c'est l'histoire de Janie Mae Crawford, qui est en fait de retour dans sa ville natale, après trois mariages, plein de frustrations, etc., avec chacun de ses maris. Et en fait, elle revient et elle se raconte. Vraiment, elle fait son propre portrait dans un flashback. Et, ça raconte, et donc, ça se passe aux États-Unis fin 1930. Donc, forcément, et c'est une femme noire. Donc, forcément, il y a tout un background aussi, racial, etc., politique. Et d'ailleurs, Oprah Winfrey dit aussi que c'est le plus beau roman d'amour de tous les temps.
Ah ouais, carrément.
Et Zadie Smith dit aussi qu'elle aime ce roman comme aucun autre.
Wow.
Donc c'est vraiment avoir un classique que j'ai envie de découvrir. Il est dans ma pile à lire. J'espère que c'est pas un Just Vibes.
Ah ouais, tu m'étonnes.
Parce que c'est quand même une femme qui revient dans sa ville natale et qui se raconte, donc en fait qui reste dans sa tête pendant 500 pages
oh là là.
Et qui revient sur ses anciens mariages, etc. Mais peut-être qu'il se passe des choses intéressantes, je veux dire, quand même. Donc, bah, on verra bien si j'en parle dans un prochain book club. Mais en tout cas, pour le moment, il prend la poussière dans ma pile à lire.
je pioche.
Et c'est la dernière.
Ton coup de cœur de tous les temps. Alors, on aurait pu s'attendre à un classique ou à de la mythologie grecque. Eh ben, c'est aucun des deux. C'est « Le roi n'avait pas ri » de Guillaume Meurice.
Encore un livre que je lui ai offert,
qui était dans mon top 3 2021. À la première place, ça raconte l'histoire du bouffon Triboulet au XVIe siècle, dans la cour du roi François Ier. Et... le titre nous dit tout, c'est-à-dire que le roi n'a pas ri à une blague de Triboulet. Et le livre commence par ça, commence au moment où le roi n'a pas ri. Et on ne sait pas pourquoi encore le roi n'a pas ri, et on va découvrir d'abord toute l'histoire de Triboulet, comment il en est arrivé à être un bouffon, pourquoi il faisait rire le roi François Ier, et à la fin on sait pourquoi le roi n'avait pas ri. Et c'est génial. C'est un livre que j'ai dévoré en deux jours, qu'à chaque fois que je posais, j'étais frustrée de ne pas continuer.
Parce qu'on a envie de savoir, en fait, pourquoi il a pas ri, le roi.
Oui, on a envie de savoir. Et à chaque page qu'on tourne, on est là, mais pourquoi il a pas ri ? Pourquoi il a pas ri ? Mais pourquoi il a pas ri ?
Mais attends, mais c'est quoi les conséquences du fait qu'il ait pas ri ? Enfin, est-ce que Triboulet, il est poursuivi par la police ? Est-ce qu'il va se faire pendre ? Enfin, par la police, par la garde royale
Eh ben, il va se faire virer de la cour.
C'est tout ?
Ben non, ça emporte des conséquences.
Ah !
Il va se faire virer de la cour, donc il descend de classe sociale. Et qu'est-ce qui se passe quand il descend autant de classe sociale ? Il est ramené à sa condition, la condition qu'il avait quand on a commencé le livre. Sauf que c'est une condition qui, psychologiquement, lui fait moins mal qu'au début du livre.
Ah !
C'est-à-dire qu'il a évolué... Pendant tout ce temps où il était à la cour, pendant tout ce temps où il a gravi les échelons, on a ce retournement de situation qui fait qu'en fait, c'était mieux d'être en bas qu'en haut.
Et est-ce que le livre est drôle ? Parce que c'est écrit
très
par Guillaume Meurice.
Ah, j'ai
Meurice.
Tellement ri.
Ouais.
Franchement.
Guillaume Meurice, c'est un humoriste, non ? Ou un chroniqueur radio.
Ouais, c'est un chroniqueur radio,
aussi.
Ouais. Okay. Ouais, j'ai bien ri. Franchement, j'ai tellement ri que j'ai pris des pages en photo. C'est un truc que je fais. Et j'ai un album livre dans mon téléphone. J'ai pris des pages en photo pour re-rire.
Mais est-ce qu'on revient vraiment sur les albums photos de nos téléphones ?
Moi, oui.
Ok.
Ouais, je le fais pour mon compte Insta. D'ailleurs, allez le suivre. Ça s'appelle Eva aime lire.
C'est vrai, Eva aime lire. C'est vrai qu'elle a un petit compte Insta.
Et je le fais pour faire des reviews. je retourne sur mes sur
ah
mon
bah oui,
compte
du
livre.
Coup, tu retournes sur tes photos ouais. De livres pour pouvoir les poster sur Instagram et faire tes reviews de livres.
Exactement.
Bon bah contente qu'encore une fois un livre que tu as offert ait fait un carton plein. Et en fait, la dernière question que j'avais par rapport à ça, c'est est-ce que la raison pour laquelle le roi ne rit pas, ça t'a outré ou ça t'a bouleversé ou ça t'a surpris?
Genre,
est-ce que
pas du tout.
On était... Ah ouais?
Je me suis dit, ah, j'aurais pu le savoir.
Ah.
Mais du coup, ça m'a surpris d'avoir pensé que j'aurais pu le savoir.
Ah,
je me suis dit, mais pourquoi je l'ai pas su?
Bon, bah dans tous les cas, t'as
on
été
est...
surpris.
Oui, dans tous les cas, on est surpris.
Ok. Moi, mon coup de cœur de tous les temps, franchement, mais c'est trop dur, enfin... Je peux pas dire. Enfin,
a... on voulait que tu répondes à la question.
Ah non, mais il y a trop de livres qui m'ont marqué.
Choisissant.
De plein de manières différentes, quoi. Oh là là, j'ai pas envie de choisir.
Ah ouais, mais il le faut.
Bah, nul cette question.
Mais génial. Moi, j'adore cette question.
Je vais essayer du coup de donner un coup de cœur, mais dont je n'ai pas encore parlé dans le book club, comme ça, okay. Ça ne fait pas de répétition. Donc déjà, on élimine certains coups de cœur, évidemment, qui étaient dans le book club.
Mais si t'en as aimé autant, pourquoi tu ne peux pas choisir, disons, au hasard?
Mais j'essaie, en fait, mais ça doit être un coup de cœur, tu vois, genre, pas okay. Juste un petit... Non, un coup de cœur et...
Tellement.
Du coup, genre, c'est chaud, wesh. Non, bah franchement, j'ai envie de dire... que mes coups de cœur, vous les entendez chaque mois dans le book club. Hein. Parce qu'en fait, le coup de cœur que j'ai, c'est un livre que j'ai pas encore terminé et dont je sais que je vais vous parler le mois prochain tellement il est ouf. Et c'est un roman... Enfin, en fait, c'est une histoire d'amour contemporaine de Taylor Jenkins Reid. Franchement, vous avez trop pensé que je suis grave... que je suis à fond dans la romance, mais ce n'est pas une romance. C'est vraiment un livre sur une relation amoureuse, sur un mariage et comment, en fait, c'est dur, ok?
Ok.
Genre, comment l'amour, c'est dur et c'est compliqué.
Ok.
Et c'est pas simple. Et c'est réel, en fait. C'est vrai, c'est la vraie vie, c'est authentique. Et c'est trop poignant. Et en fait, j'ai pas envie de vous donner le titre parce que je vais vous en parler le mois prochain. Mais c'est l'histoire d'un couple... dont le mariage est en train de s'effriter. Et donc, ils décident de passer un an séparés. Et la seule règle, c'est de ne pas se parler, de ne pas se contacter pendant un an.
Wow.
Voilà. Et j'en suis arrivée justement au moment où ils se quittent. Et va commencer une année sans se parler, quoi. Sans parler à sa femme, sans parler à son mari. Et j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. Et pour le moment, c'est incroyablement bien écrit. Et très certainement, très 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 certainement, que ça va être un de mes coups de cœur, je le sens là, de cette année. Et que je vais vous en parler le mois prochain, de toute façon.
Et c'est quoi la narration? C'est omniscient, on est du point de vue de la femme?
C'est du point de vue de la femme.
Ah ouais?
Ouais,
okay.
Ouais, c'est du point de vue de la femme. Et c'est trop bien. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du Book Club. On espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup, Eva, d'y avoir participé.
Avec plaisir. Lisez nos recommandations.
Oui.
Ou les lisez pas.
Lisez nos recommandations. J'espère qu'on vous a donné envie de lire ces livres. Ou si vous les avez déjà lus, vous pouvez poursuivre la conversation avec nous sur Instagram, à la Zone Podcast, ou sur le compte Instagram d'Eva, Eva aime lire. Et sinon, ben, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau book club. Et en attendant, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de La Zone, dans laquelle vous pouvez retrouver mes recommandations culturelles, mais aussi toutes mes péripéties d'une meuf créative qui se cherche un peu à travers les livres, mais aussi autrement. Et surtout, faites-moi part de vos plus belles lectures. Je suis toujours à la recherche d'un nouveau monde à découvrir. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt.